Il faudrait que vous réfléchissiez ça en fait. Sinon, je vais avancer.
J'ai dit combien de chercheurs ?
Une trentaine de
chercheurs. Ah, 50 à peu près 100, ouais.
50, oui.
Parce que c'est une centaine, je pense.
Ils sont mariés, la plupart.
Oui, oui. Non, ben, en fait, non, je peux pas.
Bien sûr,
mais c'est quand même assez particulier, c'est même au niveau de... C'est quand même une situation différente de ce qui se passe dans un domaine, par exemple à une époque où quand même on a des réseaux quand même plus importants et on a des firmes métropolitaines qui font du commerce avec plusieurs endroits à Saint-Domingue, avec c'est quand même plus important. Là c'est vraiment une communauté assez réduite. Et en fait j'ai pu comparer ça avec d'autres communautés dans les colonies, mais aussi en Angleterre, pour essayer de voir est-ce que vraiment ça pose vraiment un problème. Si on regarde dans les autres colonies britanniques, par exemple, Philippe a étudié les juges criminels et les décisions qu'ils prenaient à Halifax, en Canada, et il montre que l'élite locale dominait les processus de justice, et souvent c'était l'élite socio-économique, et souvent c'était des marchands, etc. Et donc, dans la situation est assez indifférente de ce qui se passe à l'église. Si on regarde ce qui se passe en Angleterre, je regarde, par exemple, si on compare avec les communautés rurales anglaises, là encore, elles sont dominées par, par l'élite socio-économique. Bon, dans ce cas-là, ce ne sont pas tellement des marchands, c'est plutôt une élite aristocratique, mais on a le même problème. Et si on regarde, quand je me suis penchée sur l'ethnographie qui travaille sur les soins, qui travaillent sur le système légal, il maintient les mêmes problèmes en fait. Donc, que j'essaie de mettre en l'air, je sais que ce soit pas forcément spécifique à ces communautés, même si ça peut poser un problème. Le deuxième aspect qui m'intéresse ici, c'est l'application du droit et comment et le fonctionnement finalement du cours de justice. Donc, il y avait deux façons pour le créditeur de récupérer la dette. Le premier, c'est de faire saisir les biens du débiteur par un acte qui avait. La deuxième façon de recouvrir les dettes, c'est de faire arrêter le débiteur. Et ce qui est intéressant ici, c'est le fait que si on compare l'Angleterre avec l'Égypte, on a deux résultats très différents. Dans les cours du King's Bench Common Pleas en Angleterre, donc bien sûr en 1825 un peu plus tard, mais c'est ça, 5 ans, on voit que 40% des poursuites finissent par l'arrêtation du débiteur. Si on compare à ça, ceci avec Nevis, on voit qu'en 30 ans, on a deux cas. Pour la période qui concerne 1795 et 1825. Et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait une situation complètement différente des pouvoirs d'arrestation dans ce contexte. Oui.
En fait,
là, j'ai que les cas qui impliquent les firmes métropolitaines. Comment je viens?
D'accord, mais de toutes les manières, ça fait un frontage secret.
Ouais. En fait, quand j'ai regardé les cas dans le Queensland chez Common Pleas, je me suis juste concentrée sur les firmes. Sur les poursuites judiciaires entreprises par les marchands métropolitains à l'encontre. Voilà. Mais en fait, je n'ai pas le nombre total de cas en fait sur la période, de total de poursuites légales. Mais c'est quand même très faible en fait. Et en fait, mon interprétation, c'est. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. D'abord, il y a le fait que dans tous les cas, il était plus intéressant. Si les biens d'une débiteur étaient saisis, s'ils utilisent ce droit, ils ne peuvent pas faire arrêter le débiteur. Donc il faut choisir en fait, en tant que débiteur, quelle stratégie adopter. Il est toujours plus avantageux pour eux de faire saisir les biens plutôt de faire arrêter le débiteur. En plus, grâce à l'acte Debt Recovery Act, ils peuvent faire saisir aussi des domaines, des plantations, etc. Donc pour eux, c'est aussi plus avantageux d'utiliser le premier droit plutôt que le deuxième. Et la troisième explication, c'est si on considère, on prend en compte le profit socio-économique des éditeurs dans ce cas-là, et le fait que souvent, ce sont des planteurs, donc ce sont des gens qui ont des biens, qui ont des terres, et qui peuvent être soutenus dans ce contexte. Donc ça explique cette divergence. Ce qui explique un petit peu la divergence. Et par contre, il y a un autre problème associé avec Debt Recovery Act. Et en fait, là, c'est de reprendre la question, quel était l'impact de cet acte sur le fonctionnement de la justice. C'est le fait que si les biens sont saisis, ils n'entrent pas directement en possession du créditeur, mais ils devaient être mis en vente à une vente publique, une vente aux enchères. Et à cette vente aux enchères, le rhum et le sucre, c'est monnaie légale. Et parce que ces denrées étaient survalées, ça veut dire que souvent le créditeur perdait en fait. Et c'est un système assez avantageux pour le créditeur. Et donc, dans la plupart des cas, les créditeurs préféraient arriver à un arrangement en dehors des cours de justice. Donc quand je regarde au cas qui implique les marchands métropolitains Anelis et Anelis, on voit que sur 27 cas Anelis, par la période que je regarde, 5 cas furent discontinués et 5 cas sont conclus par, un judgment by confiscation. Dans les deux cas, ça veut dire qu'un arrangement informel a été trouvé en dehors de la cour. Donc il y a bien une procédure qui a été entamée, mais on n'arrive pas à un judgment by l'exécution du jugement. On a un cas similaire, sur 24 cas, 10 cas soit discontinués, ça veut dire qu'on s'arrange en dehors également, ou alors withdraw by consent principle. Dans 7 cas, on a un cas de judgment revised. Dans ces cas-là, un jugement a été atteint, il y a eu jugement, mais il n'a pas été exécuté. Et il y a l'exemple d'un jugement qui a... Et en fait, dans un des... Et l'exemple d'un jugement qui est en 1765 et il est appliqué presque 20 ans plus tard, au milieu des années 1780. Donc c'est comme une sorte de menace en fait. C'est-à-dire, il y a jugement, il n'est pas exécuté, mais si le débiteur ne respecte pas un certain paiement des intérêts, etc., il y aura exécution du jugement, les biens sont saisis, etc. Donc les créditeurs et les débiteurs peuvent faire ça en tant que cours de justice. Je vais montrer qu'en fait pour les créditeurs c'est plus avantageux parce qu'ils préféraient ne pas aller jusqu'au bout et ne pas aller jusqu'au vent d'une enchère qui leur était en général désavantageuse. Et pour les débiteurs, ils préfèrent aussi s'arranger en dehors des cours de justice parce que le système était biaisé en faveur des créditeurs. C'est-à-dire que le cours de justice fonctionnait comme une... représenter une réelle menace et une menace crédible. Les jugements étaient dans leur majorité rendus en faveur des créditeurs, qui pouvaient produire une forme matérielle de la dette, sous forme d'obligation le plus souvent. Et si je regarde tous les cas qui étaient mes listes, tous les jugements sont rendus en faveur du créditeur. Et à chaque fois, ça veut dire que les frais de justice sont pris en charge par le débiteur. Donc ce qui représente un coût important. Ce qui veut dire que même pour les débiteurs, c'est plus avantageux de s'arranger en dehors et s'ils pouvaient. Donc en fait, cette fonction des cours de justice comme une menace plutôt que... explique aussi le fait que... Ce qui m'a étonné, c'est qu'au début, je trouvais peu de cas qui impliquaient des marchands métropolitains. Par rapport à ce que je pensais que le point de la dette étant en peine, il y aurait plus de... Je poursuite dans le cours, mais il y avait finalement deux cas. Et c'est parce que, en fait, il y a toujours. Il ne faut pas toujours s'arranger en dehors des cours. Il y a aussi une autre fonction du système judiciaire, c'est le fait que, dans certains cas, et alors, là en particulier, je me suis intéressée particulièrement au cas qui involve. Impliquait Don Pinet, qui était le marchand dont j'ai parlé précédemment. Et lui, la firme de Don Pinet était assez importante à Médic, et la plupart Vous êtes en contact avec pratiquement tous les planteurs là-bas. Et sur la période qui m'intéresse, hein, ils sont impliqués dans FICA, ce qui est assez peu, mais finalement, de toutes les fermes, ce sont eux qui ont le plus de cas. Et ce qu'on voit, c'est que dans leur, par exemple, sur les FICA, il y en a un qui concerne Joseph Barco, qui est un homme noir libre, et la firme Tobin Alpiné le poursuit pour 35 cas, ce qui est une somme très faible, enfin, assez faible considérée dans le contexte. Et en fait, c'est parce que les conjonctions servent aussi à faire respecter les engagements à ceux qui sont des outsiders au réseau commercial et financier. Et en fait, par exemple, je me suis appuyée aussi sur les travaux d'autres historiens du système criminel et judiciaire qui montrent aussi que dans certaines communautés, les cours servent quand les autres pressions sociales et morales ne peuvent plus fonctionner. Et c'est dans ce cas-là qu'on a tendance à engager une poursuite, quand la pression des pères ne peut plus fonctionner. Et si je regarde, quand je m'appuie sur la croissance de Tobin Alpiné, on voit qu'à la plupart du temps, ils vont essayer d'utiliser un système de médiation impliquant des amis, impliquant des parents de leurs éditeurs. Et souvent, ils arrivent à faire ça. Parallèlement à ça, John Pinney est souvent écrit et les menace souvent de les poursuivre en justice s'ils ne respectent pas leurs engagements. Donc il y a les deux choses en parallèle. Deux ou trois des cas aussi qui impliquent John Pinney impliquent non pas des planteurs, mais des firmes anti-esclavage locales qui servent d'intermédiaires, en particulier dans la traite des esclaves. Et souvent, ce sont ces dettes qui sont... ce qui est assez intéressant, c'est que ces marchands entiers, ces intermédiaires, sont assez bien représentés dans tous les cas que j'ai relevés, en fait. Paradoxalement, on trouve peu de planteurs qui sont l'objet de ces poursuites, et pourtant ce sont eux qui représentent la majorité des éditeurs dans ce système. Et en fait, c'est parce que les marchands entiers sont, j'explique cela par le fait que les marchands entiers sont les marchandiers n'ont pas de terre, donc c'est plus difficile de... Donc c'est ça qu'on a dit plutôt là, plutôt que... Bonjour. Parce qu'en fait, les planteurs, plutôt que de se faire... je crois qu'on en file. Les marchands métropolitains, souvent ne poursuivaient pas en justice leurs clients planteurs, parce qu'au lieu d'avoir des dettes commerciales par obligation, il est préféré avoir des mortgages, des hypothèques et des titres comme garantie des emprunts et des avances financières qu'ils concèdent à leurs clients. Et ça leur a été passé par le système des kingpins chez les commerciaux. Et c'est pour ça qu'on trouve ces cas dans ces cours de justice. Et par contraste, on aura plutôt des poursuites impliquant des marchands locaux ou alors des hommes comme Joseph Bateau qui ne sont pas dans ce système de crédit. Alors, en particulier, les hypothèques permettaient aux marchands métropolitains